à Seignelay-Gier, j'allais fréquemment, professionnellement, à La Chaux-de-Fonds, où j'avais des rencontres avec mes collègues professionnels de la police neuchâteloise, et quand j'arrivais au poste, on me saluait, « Te revoilà, grec !»
Alors effectivement, vous avez exercé quelle profession ?
J'ai d'abord, comme tous les jeunes gens de l'époque, fait un apprentissage de conducteur typographe, machiniste d'imprimerie. Malheureusement, les années de crise, les années 1930 et déjà avant, à partir de 1925, ne m'ont pas permis d'exercer ma profession, si ce n'est sporadiquement. Et finalement, après quelques années de travail en Suisse alémanique, différentes professions, je suis entré à la police cantonale bernoise en 1935. J'étais à la limite d'âge, c'était ma dernière ressource pour me faire, je pense, une beauté. Et depuis lors, j'ai exercé la profession de gendarme bernois. Et le hasard a voulu que le poste de chef de la police municipale de Porrentruy vienne disponible à la fin de la guerre. À ce moment-là, j'ai postulé, j'ai été nommé par le conseil municipal en qualité de chef de la police municipale avec le titre de commissaire.
Votre père, lui, était à la frontière.
Oui, mon père était effectivement douanier. À l'époque, on leur dit maintenant douanier, mais à l'époque, on appelait ça un garde-frontière. Et avec lui, j'ai voyagé les Franches Montagnes et la Joie. En particulier, les postes, à cette époque-là, il n'y avait en fait que des postes à l'extrême frontière, les grottes de Réclair, Grandfontaine, il y a été à deux reprises, à Failly, à Boncourt, à Miécourt, avant la guerre de 1914 déjà, à Boncourt, je ne sais pas si je l'ai aidé, à Lugné, où il a fait 10 ans, et il a été également aux Franches-Montagnes, le poste éloigné et retiré du Chauffour. Il était 2 fois à Goumois, pour le bonheur ou pour le malheur de ma femme, puisque j'y ai trouvé mon épouse. Il a été également à La Bouége, un tout petit poste. À cette époque-là, c'était en 1909 qu'il est allé à La Bouége. Et à cette époque-là, on atteignait encore le poste de garde-frontière. Il n'y avait pas de bureau de douane, c'était un poste de garde-frontière. On l'atteignait encore les derniers 2,5 km en barque. Même pour déménager le mobilier, il fallait le conduire sur une barque et une perche.
Effectivement, cette région était assez retirée, et c'est-à-dire qu'elle était isolée, en tout cas de la Suisse.
La Joie n'était pas spécialement isolée, du moins pas dans la bonne saison. En revanche, la Joie n'a qu'une route qui conduit directement vers l'intérieur de la Suisse, c'est-à-dire vers Delémont. Et encore, cette route passe par le col des Rangiers, c'est-à-dire à plus de 900 mètres d'altitude. Et il arrivait, à cette époque-là, jusqu'après la guerre de 1945, il arrivait que la route soit fermée pendant 2 ou 3 jours par suite des chutes de neige. Et la Joulot, c'est l'habitant de La Joie, se trouvait confiné chez lui, ou alors il avait la possibilité d'utiliser le train et passer par le tunnel. Les liaisons, les relations entre le paysan à Joulot et le paysan franc-comtois, particulièrement du côté de la Franche-Comté, c'est-à-dire la région de Danvent, Failly, jusque Bure, particulièrement cette région-là, les contacts étaient fréquents. Les paysans, l'agriculteur, soit suisse, soit français, possédaient très fréquemment des terres dans le pays voisin. C'est dû en partie aussi au fait qu'il y a eu des rectifications de frontières. En 1779, par exemple, il y a eu une convention entre le roi de France et le prince-évêque de Bâle, convention qui a dû être ratifiée même par le Vatican, par le pape, parce que ça comportait des rectifications de frontières et des échanges de paroisses. Il ne faut pas oublier que la partie de la Haute-Alsace qui appartenait spirituellement à l'évêque de Bâle, appartenait temporellement à l'archevêque de Strasbourg, de telle sorte que ces deux évêques avaient des crosses, qu'on peut dire, entre eux, et à un moment donné, il avait interdit à l'évêque de Bâle de pénétrer, l'évêque donc de Strasbourg lui avait interdit de pénétrer dans ses terres, dans ses territoires, et l'évêque ne pouvait plus aller visiter les paroisses qui dépendaient de lui. Il a dû donc nommer un coadjuteur, et c'est ce coadjuteur qui allait faire les visites pastorales dans les paroisses de la Haute-Alsace. Et pour mettre fin à ces nombreuses difficultés, le prince-évêque s'est approché du roi de France, et entre 1778 et 1780, ils sont arrivés à un arrangement des échanges de territoires, d'abord de territoires aussi au point de vue géographique, mais surtout au point de vue spirituel. Les paroisses situées dans la Haute-Alsace ont été attribuées à l'évêché de Strasbourg et celles de Haute-Ajoie et Basse-Ajoie à la principauté ou à l'évêché de Bâle. Et à ce moment-là, il y a eu de nombreux échanges de terres, par exemple à Danvant, le dernier village avant la frontière française. Il y avait là deux ou trois maisons qui se trouvaient dans le village de Danvant, mais c'est sur territoire français. De telle sorte qu'il y avait souvent des difficultés, au point de vue politique, au point de vue douanier. Ces paysans pouvaient transiter sur territoire suisse sans aucun contrôle, mais en revanche, n'osaient avoir en dépôt chez eux les denrées qui étaient soumises aux droits de douane, par exemple la gabelle, le sel. Ils n'osaient avoir en réserve que les quantités nécessaires à l'exploitation de la ferme et du ménage. Plusieurs immeubles dans la région qui se trouvaient à cheval sur la frontière. Il y avait la ferme de Borgard, qui est sur le territoire de la commune de Failly, et la frontière. Je suppose qu'à l'époque, c'est à dessein qu'on avait construit à cheval sur la frontière pour pouvoir trafiquer plus facilement. Mais pendant la dernière guerre, par exemple, cette ferme était occupée par les militaires suisses et par les militaires allemands lorsqu'ils étaient en occupation en France. La cuisine et certaines chambres étaient sur Suisse, alors que le rural, la grange, les écuries étaient sur France. C'était la même chose pour la ferme de la Queue au Loup, près de Boncourt. Une partie de l'immeuble était sur France et une partie sur Suisse. C'était évidemment, là, c'était un petit restaurant de campagne et magasin, c'était propice pour les contrebandiers. La même chose à Lucel, le hameau de Lucel, l'ancienne abbaye de Lucel, qui est à la frontière entre la Suisse et l'Alsace. La frontière passait jadis dans la cuisine du monastère. Et encore maintenant, il y a eu à l'époque donc, des échanges de territoires, mais encore maintenant, lorsqu'on passe à Lucel, la borne frontière se trouve à côté d'un immeuble, à environ un mètre de l'immeuble, juste pour que les gens puissent passer sur Suisse. Cette maison-là est sur Suisse, par exemple. Il faut que les habitants puissent quand même tourner autour de la maison en restant en Suisse. Mais le dernier échange qui s'est fait pour la ferme de Borgard remonte à moins de 10 ans.
Maurice Juira, alors est-ce que l'on peut dire que les mentalités à Porrentruy étaient également en quelque sorte partagées en deux? Est-ce qu'il y avait véritablement deux influences, une suisse, une française?
Ah, je ne sais pas si on peut dire qu'il y avait deux influences, suisse et française, mais il y avait énormément d'affinités avec la France. Comme je l'ai déjà dit, il y avait la question du travail des terres pour les laboureurs, et il y avait aussi les relations familiales. Fatalement, on arrivait à ces contacts entre familles suisses et françaises, surtout dans les localités en bordure de la frontière, et les mariages, les échanges entre familles suisses et familles françaises étaient fréquents. Dans les villages, que ce soit Failly, Grandfontaine, Danvent, Raucourt, Chevenay, Bure, Boncourt, dans chaque presque famille, on trouve une fois un mariage entre ressortissants suisses et français. En ce qui me concerne, je suis bien placé pour le dire, puisque ma mère était française et j'ai également épousé une française. Mais née en Suisse, ma mère était française, née en Suisse, mais à proximité de la frontière française, et mon épouse est née, je pense, à 4 mètres du bord de la frontière française, mais sur territoire suisse.
Les gens ici, comment est-ce qu'on peut les caractériser ?
Écoutez, un caractère très ouvert, très franc, un peu bagarreur, très politicard. Les bagarres entre les rouges et les noirs étaient épiques à l'époque, mais pas comme dans certaines régions où la rogne subsistait entre familles, parce que souvent, il y avait deux frères qui n'adhéraient pas au même parti politique. Alors, en période électorale, très souvent, dans les villages, on ne se saluait plus.
Qu'est-ce que vous pensez de la joie par rapport à l'évolution technologique ?
Oui, au point de vue économique, la joie n'a jamais été à la pointe du progrès. Je pense qu'on doit l'admettre. On a beaucoup dépendu de grandes entreprises situées souvent hors du Jura, sauf peut-être en ce qui concerne la pierre fine. Malheureusement, c'est une spécialité qui a pratiquement totalement disparu, non seulement en Ajoie, mais la pierre d'horlogerie se fabrique très peu. Nos entreprises sont restées, je pense, trop fermées sur elles-mêmes et n'ont pas cherché à suivre le progrès technologique. C'est vrai, je crois, pour l'ensemble de l'industrie du Jura.
Est-ce qu'il y a un dépeuplement ?
Dépeuplement, on ne peut pas dire, mais on n'avance pas. Nous sommes redescendus par rapport aux années de prospérité, les années vers 1950-1960. Nous avons perdu, pour la joie, je pense, environ un millier d'habitants. Mais c'était surtout des étrangers. Des étrangers, en grande partie, qui ont rejoint leur pays d'origine. Et c'est aussi dû au fait que nos entreprises qui occupent de la main-d'œuvre étrangère occupent beaucoup de main-d'œuvre frontalière. Il faut espérer que, sur le plan économique, la joie ne restera pas en arrière. Nous avons l'avantage d'avoir une école d'horlogerie et de mécanique de précision avec une section de micro-mécanique et d'informatique. Et il faut espérer que les techniciens qui en sortiront maintiendront du travail dans notre région.
Maurice Jura, à la frontière, puisque vous en avez l'expérience, qu'est-ce qu'on passait en contrebande ?
À l'époque ? Ouais. Oh, à l'époque, écoutez, on considérait de la contrebande toute petite, on dirait, bricolerie qui passait clandestinement. Il suffisait de passer un kilo de sucre ou deux litres de vin et c'était déjà de la contrebande. La grande contrebande, je ne sais pas s'il y en avait jadis. Il y avait un peu de contrebande de bétail, particulièrement de chevaux, mais la grande contrebande, il n'y en avait pas.
Pendant la dernière guerre, vous avez eu une période extrêmement chargée, au moment où il y a eu tous les réfugiés, d'abord la population civile française, et puis les armées. Il y avait des Polonais, des Belges, des Français, il y avait les Spahis qui sont entrés par tous les points frontières.
Oui, c'est exact, mais à cette époque-là, je n'étais pas en Ajoie. J'étais gendarme à Seignelay-Légier et nous avons eu les nombreux passages de réfugiés civils et militaires par les différents points de passage possibles dans cette région là-bas, la Goule, le Goumois. Goumois a vu passer environ 12 000 hommes de troupes et 6 ou 8 000 civils réfugiés qui arrivaient qui à pied, qui en voiture, qui en automobile ou à motocyclette. Il en est passé également par le petit poste de Clerbier qui aboutait à Soubé. Il en est passé par le poste des douanes du Chauffour, près d'Épicré. Il en est passé à la Motte. Et ce qui est passé en Ajoie, j'ai eu moins de contacts parce que j'étais loin. Mais c'était évidemment des moments pénibles de voir ces gens déposer les armes. La plupart n'ont pas vu d'Allemands et devaient déposer les armes en entrant en Suisse. On avait certains militaires, particulièrement les troupes polonaises et les Spahis, qui avaient on en a vu avec les larmes aux yeux en pénétrant sur Suisse.
Si je vous demande, ancien commissaire, quel est l'affaire qui vous a donné le plus de fil à retordre?
Ah, évidemment, l'affaire la plus pénible, une affaire très très pénible au point de vue professionnel. Nous avons eu un engagement, c'était en 1949. On m'a demandé d'envoyer un agent dans une famille où le mari buveur faisait du vacarme. Les enfants et la femme s'étaient enfuis. J'ai envoyé un agent de la police municipale et un gendarme. Ils ont été reçus à coups de fusil. Un gendarme a été blessé et l'agent de police municipale tué. Ensuite, nous avons dû prendre la maison d'assaut. On a encore essuyé 22 coups de feu avant de pouvoir pénétrer dans le bâtiment. Ça a été évidemment l'affaire la plus pénible. L'agent était un tout jeune agent qui avait 3 ans de service, qui laissait une veuve et deux enfants en tout bas âge. Ça a été le cas le plus difficile.
Et votre souvenir le plus drôle, le plus comique ?
C'est peut-être un peu plus difficile. Écoutez, certainement, les plus comiques, ce sont les interventions dans les ménages lorsqu'il y a bagarre entre mari et femme. Et il me vient l'idée, nous intervenions très fréquemment dans un ménage où le mari, peut-être paresseux, buvait quelquefois. Et lorsqu'il rentrait à la maison, tard, il y avait bagarre. Une femme qui tenait un ménage impeccable et un jour, je lui dis à la femme, écoutez, puisque vous prétendez qu'il entre lorsqu'il est ivre, alors vous n'avez qu'à lui ficher une fois de distribution quand il rentre, pas besoin de nous appeler. Elle a suivi mon conseil et 6 semaines plus tard, c'est le mari qui me téléphone, venez vite à mon secours, il y a ma femme qui m'a reçu à coups de couteau. Je pourrais peut-être en donner un deuxième. Une nuit, vers minuit, on sonne chez moi. C'était un voisin qui habitait pas loin de chez moi, qui était par hasard natif de mon village, de Chevenay. Nous avions été à l'école ensemble et il m'interpelle en patois. « Dis donc, viens voir, il y a ma compagne, parce qu'ils vivaient en concubinage, il y a ma compagne qui ne veut plus me recevoir, elle m'a fermé la porte, elle m'injurie, viens voir la raisonner pour qu'elle me reprenne, je ne sais pas où aller dormir. Et je l'ai accompagnée, j'ai appelé l'épouse, ou plutôt la compagne, et quand elle a reconnu ma voix, elle m'a dit « Ah, c'est toi, commissaire, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Mais écoutez, descendez jusque dans le jardin, on veut parler, il y a votre bonhomme qui est là, et oh, ce n'est pas bien de l'avoir renvoyé. » Et elle descend, et au bout d'un moment, elle a constaté qu'effectivement, son compagnon était caché quelques mètres plus loin. Espèce de cochon. D'abord, elle le plaignait, mais je veux le reprendre. Quand elle a vu que c'était lui qui m'a. Cochon, macaroni, parce que c'était un ressortissant italien. Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir.
Ce qui prouve que les aides jolettes ont du caractère.
Ah oui, ah, c'était une jurassienne, celle-là.
Du côté de la vie, du côté de la joie et de la baroche. Avec nos premiers invités, François Noirjean, archiviste au service cantonal jurassien du patrimoine, Paul Noir, rédacteur au journal Le Pays, Maurice Jura, anciennement commissaire de police à Port-Antruy. Ainsi que les trois copains de Halle, la fanfare municipale de Port-Antruy, le chœur d'hommes de l'école normale de Port-Antruy et le groupe des vieilles chansons de la ville de Port-Antruy. Dans quelques minutes après les informations, nous rencontrerons le curé de Bonfol ainsi qu'un potier de cette localité, le José Baroche, dans son village de Frégiécourt. Une distillatrice, mais oui, de Charmeuil, un archéologue à Vandelincourt et une ancienne députée au Parlement jurassien. Sur la première de Radio Suisse Romande, rendez-vous information, parenthèse actualité avec Laurent Borel.